cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Judard, le 14 janvier 1994.
Secret. secret. Le jour où il n'y a plus de secret de famille, il n'y a plus de famille. Alors prenez, avant le bien commun, prenez le secret de la famille. Le secret de la famille est fait de quoi? Ben oui, il y a eu un grand-père qui était un saint. Il y a eu un oncle qui était un brigand. C'est un faux secret, mais on n'en parle pas, il vaut mieux pas en parler. Alors, le bien commun est un secret pour la communauté qui vit de cela. C'est vrai, c'est une fin. Et ça implique, voyez, le bien commun implique tout un aspect affectif. Il y a un lien d'amour entre les citoyens. Un lien d'amour particulier. On a la même langue, la même culture. Et cette même langue, cette même culture fait un lien. Alors ça, c'est très intéressant avec ce que je vous soulevais hier au soir, au chapitre, n'est-ce pas ? Certains disent, Saint-Jodard, une communauté française. Non, communauté religieuse, chrétienne. Ah, on est d'église. Ce sont des Français en majorité. Je ne sais pas quel pourcentage. Bon, il y aurait le syndicat de ceux qui ne sont pas français. Si ce n'était pas une communauté religieuse, ça pourrait se comprendre. Mais que c'est une communauté religieuse, l'aspect religieux est substantiel pour nous. L'aspect français est accidentel. Ben oui, parce que notre bien commun n'est pas français. C'est bien évident. Notre bien commun s'exprime en français, mais peut s'exprimer en anglais, peut s'exprimer en espagnol. C'est le bien commun réel. Vous voyez, de danger. C'est-à-dire, communauté française parce qu'on parle français, mais ça c'est du nominalisme pur. C'est exécrable. C'est du nominalisme. Communauté religieuse chrétienne, le Christ n'est pas français. Il n'est pas anglais non plus. Il n'est pas espagnol. Il a raté le coup. Venez. Le Christ pour nous, mais c'est pas un étranger, puisqu'il est Dieu. Alors on dit que le christianisme est étranger, vous voyez. Pour les Chinois, par exemple. C'est étranger. Mais non, il n'est pas étranger. C'est le côté abominable de la laïcité pure, vous voyez. De considérer que être chrétien, être catholique, ça enlève quelque chose à l'homme. Mais pas du tout. On n'est plus homme. Donc, on est plus dans une communauté humaine. c'est pas commode, il y a des obstacles, mais qui sont extérieurs au bien commun, qui sont des, qui peuvent devenir des parasites, c'est évident. On peut faire un syndicat de langue comme ça en opposition, mais c'est terrible. Ça prouve qu'on n'a rien compris. On n'a pas creusé assez. Le bien commun est un bien commun de sainteté et qui vient du Christ. C'est le seul bien commun. Alors quand on dit sainte, pour la franc-maçonnerie, c'était cette loi du secret qui a joué beaucoup. Et que l'Église a dit non, on ne peut pas, parce qu'il y a une loi du secret. Alors on voit très bien qu'aujourd'hui, la franc-maçonnerie s'ouvre. Et la loi du secret n'est plus du tout la même qu'avant. Ça n'empêche pas que le secret demeure. Et quand on demande de promettre de ne pas parler, c'est de ne pas trahir des secrets. Mais ça ne veut pas dire que tout est secret. Vous comprenez bien? Le secret regarde des personnes. Ah ça oui. Quand on est obligé de parler pour certains cas particuliers à la personne, eh bien là on est tenu au secret. Comme un directeur de conscience qui n'est pas tenu au secret seulement de la confession, mais de tout ce qui est autour de la confession. Comme un médecin qui est tenu au secret. Mais on sait très bien qu'aujourd'hui, hélas, cette loi du secret tend à disparaître. Pourquoi? Parce que dans les hôpitaux, on est plusieurs médecins à voir le même malade. Et un autre médecin, on communique. Et parce qu'on communique à un autre médecin le secret, il ne reçoit pas directement de l'autre. Il ne reçoit pas directement de l'autre. Le secret s'atténue. Et au bout d'un certain temps, il n'y a plus de secret. La dégradation du secret. Quand vous recevez directement un secret d'une personne qui vous demande de garder ce secret, vous le gardez. Mais quand vous le recevez de quelqu'un d'autre, il dit, j'ai reçu ce secret, je te le communique parce qu'avec toi, je suis plein de confiance. Attention. A-t-on le droit de le communiquer à un ami qui est notre ami? Attention. Sans avertir celui qui nous a communiqué. On n'a pas le droit. Parce que vous n'êtes pas maître du secret. Mais quand on regarde, par exemple, point de vue surnaturel. Marie peut communiquer à Joseph son secret de s'être consacrée à Dieu. Mais Marie ne communique pas à Joseph le secret qu'elle reçoit de l'ange Gabriel. Parce que le secret qu'elle reçoit de l'ange Gabriel, c'est un secret qui vient directement de Dieu. Le secret de sa consécration, c'est elle qui l'a fait. Donc elle peut le communiquer. C'est très mystérieux, mais ça c'est très important. Savoir comment vous pouvez communiquer un secret et comment vous ne pouvez pas le communiquer. Un ami vous communique son secret. Vous ne pouvez le communiquer à un autre ami, à votre ami, que si vous avez averti l'autre en disant « Est-ce que je peux le communiquer à un tel ?» Tu peux être sûr, c'est un ami merveilleux. Il ne dira rien. Alors si l'autre dit « Oui, très bien, vous êtes libre. » Mais vous ne pouvez pas le faire de vous-même. Faut pas dire les amis, nos amis sont nos amis. Donc le secret que j'ai reçu, je le communique à un ami, j'ai le droit de le communiquer. Non. C'est personnel. C'est très très important. Et dans notre monde d'aujourd'hui, avec ce point de vue de la communication journalistique, de la télévision, on croit qu'on peut tout communiquer. Et le secret se dilue. Et c'est là qui est terrible, parce que quand il y a violation du secret, donc une trahison, on n'a plus confiance. On n'a plus confiance. Quelqu'un qui dévoile un secret et qu'on le sait, qu'on l'apprend, on n'a plus confiance. La confiance, c'est justement ce fait que quand vous communiquez un secret, un ami, vous savez qu'il sera gardé comme secret. Si évidemment ce secret est un faux secret, vous avez le droit de dire à votre ami, écoutez, c'est un secret de polichinelle, ce truc-là. Donc ça signifie rien, et on l'explique. Et l'ami doit comprendre. Autrement, s'il ne comprend pas, si pour lui c'est un secret, il faut respecter. Il faut respecter. Donc il y a là quelque chose de très important, vous voyez. Ça fait comprendre la profondeur du secret lié à la personne. Vous ne pouvez pas comprendre l'importance du secret si vous ne savez pas ce que c'est qu'une personne humaine. Ce sont les faux secrets qu'on peut dire. Ce n'est pas plutôt une partie du secret qu'on révèle. Oui, si je prends le secret que c'est l'ami, radicalement. Mais comme c'est analogique, tout ce que me dit l'ami, qui est mon secret, tout ce que me dit l'ami en me disant « Tais-toi, je te communique ça à toi parce que tu es mon ami. » Mais ne le communique à personne. Mais vous êtes tenu au secret. Donc, au silence. Et si quelqu'un essaie de savoir ce secret, vous n'avez pas le droit de mentir. Vous avez le droit de le mettre sur une piste qui n'aboutit à rien. Sans issue. Parfaitement le droit. C'est un secret, c'est un secret. Et il y a des personnes qui veulent vous arracher les secrets. Il y a des arracheurs de secrets. Et les arracheurs de secrets, on les évite. Parce que c'est terrible. Ils enlèvent la confiance. Ils enlèvent les liens personnels d'amour qui peuvent exister. Alors, livrer un vrai secret. Évidemment, un secret s'exprime toujours très mal, mais ça s'exprime quand même, puisque vous pouvez communiquer un secret à un ami. Et l'ami comprend. Alors je sais qu'un ami s'est enveloppé de tout ce point de vue amical. Il comprend un demi-mot. Un ami comprend un demi-mot. Tandis que quelqu'un qui n'est pas l'ami ne comprend pas un demi-mot. Donc il faut expliquer. Alors, il y a une herméneutique du secret. Ça, c'est sûr. Il y a une explication, une interprétation du secret, une herméneutique. Mais ça s'explique partiellement, ça se communique partiellement. Et ça suffit pour qu'il y ait trahison. Vous mettez quelqu'un sur la piste. Vous savez, pendant la guerre, c'était le cas constant. Quand on cachait quelqu'un à l'ennemi, alors on pouvait dire l'ennemi n'a pas le droit de savoir cela, donc j'ai le droit de lui dire n'importe quoi. C'est vrai, mais d'autre part, c'est pas non plus tout à fait vrai. Si vous cachez quelqu'un, vous cachez quelqu'un, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est que vous trouvez toujours la loi du camouflage. C'est-à-dire qu'on indique quelque chose qui est vrai, et qui le met sur une autre orientation. Il fallait y penser d'avance pour que quand on était pris de court, on puisse dire ça. Et c'est très curieux de voir que tous les gens qui ont vécu sous des lois tyranniques comme le marxisme sont habitués à cela. Et au bout d'un certain temps, on ne sait plus très bien, même si on est l'ami, si c'est vrai ou pas vrai. Parce que tout était symbolique. Le langage symbolique. Je connaissais à Fribourg un japonais qui était de race impériale. Et évidemment, son père n'était pas empereur. Mais il était de race. Il avait un passeport illimité de date pour tous les pays. Pareil que lui. Et un jour, on est venu de son pays savoir un peu ce qu'il faisait. Alors il m'a dit ça. Il m'a dit, j'ai pris le langage poétique. Lui-même me dit ça, j'ai pris le langage poétique. Qu'est-ce que ça voulait dire? Un langage symbolique où tout était caché. Depuis le début jusqu'à la fin. C'est très significatif, voyez. Alors là, on cache. Et l'autre comprend très bien qu'il ne veut rien dire. Mais il parle. s'il n'est plus humain, s'il n'est plus personnel, il n'est plus humain. Alors ça vient le bien commun de l'homme et pas humain. Et je crois que ce serait une petite distinction que ce serait très important à faire. Vous voyez, comme au point de vue moral, saint Thomas fait la distinction entre l'activité de l'homme et l'activité humaine. Le fricare barbam. N'est-ce pas? C'est un acte de l'homme. Tout ce qui est de l'ordre du tic, instinctif, n'est-ce pas? C'est un acte de l'homme. C'est pas un acte humain. Alors il y a un bien commun de l'homme et bien un bien commun humain. Le bien commun de l'homme n'implique pas nécessairement un secret. Là, vous pouvez communiquer tout ça. Tandis que le bien commun humain, c'est autre chose. Il y a un lien. Alors ça, c'est tout à fait différent. Est-ce que le principe est à l'intentionnalité ce que l'être est à la réalité? Non, je vois pas. Alors, je reprends. Le principe, c'est à propos de ce qu'on avait dit l'autre jour, qui est un mode intentionnel. Le principe est à l'intentionnalité. Donc le principe peut être réalisé dans la réalité ou dans l'intelligence. Il y a un mode intentionnel. Il faut de l'intentionnalité. Ce que l'être est à la réalité. Donc, ce que l'être est à la réalité, je vois pas très bien. Donc il faudra expliciter ça, celui qui a posé la question. Je continue au point de vue critique. Donc, il y a là un moment extrêmement important au point de vue critique. Comprendre ce que c'est que le secret. Comprendre ensuite le passage de la connaissance affective à la connaissance prudentielle. On passe de la connaissance de la conscience affective de l'ami à la conscience morale. Le Saint-Père parle souvent de la conscience morale. La conscience morale, qu'est-ce que c'est? C'est important. La conscience morale. La conscience morale se noue autour d'actes prudentiels. Or, l'acte prudentiel, qu'est-ce qu'il est comparativement à l'acte, à la connaissance affective? La conscience prudentielle à la connaissance affective. La connaissance affective, c'est à l'intérieur de l'amour, du premier amour. Donc le secret, il est au niveau de la connaissance affective. Y a-t-il un secret au niveau de la connaissance prudentielle? Où on aurait l'agent secret? Oui, il peut y avoir des secrets au niveau prudentiel. Des secrets militaires, des secrets politiques sont toujours au niveau prudentiel et non pas au niveau affectif. Au niveau affectif, c'est un secret personnel. Au niveau prudentiel, ça peut être un secret d'État, un secret militaire en temps de guerre et même en dehors de la guerre. Alors, c'est le passage, voyez, de cet amour à l'égard du bien, à l'intention de vie. La prudence présuppose toujours l'intention de vie. La connaissance affective est au-delà, plus radicale que la connaissance de l'intention de vie. lui-même pourra se réaliser dans une connaissance qui se noue autour de l'intention. Et par l'intention, une connaissance qui relie les moyens à l'intention, qui, à partir de l'intention, découvre les moyens. Alors vous avez la connaissance prudentielle dans ce réseau particulier de l'intention avec les moyens, des moyens avec l'imperium, du conseil avec le choix des moyens. C'est tout un réseau. Là, on est devant une connaissance pratique, prudentielle, morale, prudentielle. Alors, quel est le type de cette connaissance? Le type de cette connaissance, c'est d'être relié toujours à la fin, au bien fin qui finalise mes activités et qui me permet de poser un acte d'intention de vie. Et cet acte d'intention de vie est la source de toute la recherche de moyens et la source de poser des actes de connaissance qui regarde l'imperium. Fais ceci. Alors, quelle différence y a-t-il entre la connaissance affective et cette connaissance prudentielle? La conscience affective, c'est la conscience de l'ami à l'égard de l'ami. La connaissance morale prudentielle, c'est la connaissance que moi-même j'ai à l'égard de ma finalité. Et à l'égard des moyens vers ma finalité. C'est donc une connaissance affective qui se transforme en une connaissance prudentielle. C'est pas commode à bien préciser, mais c'est très important. La connaissance affective regarde le bien personnel. Et elle est parfaite au niveau de l'ami, à l'égard de son ami. Et ça devient le secret. Il y a le passage de ce bien à la fin. Et le passage de la fin au moyen. Donc le bien devient fin grâce à la connaissance que j'ai de ce bien comme un bien premier capable de me finaliser. Alors il devient fin. Et cette fin commande le choix des moyens. Et quand j'ai le moyen immédiatement réalisable, je peux poser l'acte de commandement « Fais ceci ». Le « ceci » étant toujours le moyen choisi. Voyez que dans cette, on ne peut pas dire une dégradation, ce n'est pas une dégradation, mais c'est quand même des niveaux différents au niveau de l'affectivité. Et c'est l'intelligence qui de plus en plus l'emporte jusqu'à cet acte particulier, fait ceci, l'imperium, l'acte de commandement qui est un acte formellement d'intelligence, ce qui est un acte prudentiel dans toute sa force. Alors vous avez de la connaissance affective à cet acte prudentiel. Ce n'est pas un dégradé, solution, c'est l'efficacité. Alors, voyez, de l'affectivité à l'efficacité, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a une continuité et il y a une précision toujours plus grande. Alors, c'est très important de comprendre la continuité vitale, la continuité morale de ce premier amour jusqu'à l'Imperium. Il y a une continuité morale. Si ce premier amour est mauvais, l'Imperium sera faussé. Si ce premier amour est bon, l'Imperium pourrait être bon. L'Imperium pourrait être juste et moral, bon moralement, réclame que le premier amour soit bon. Je ne peux pas séparer les deux en disant j'ai une pureté de connaissance, de conscience vis-à-vis de ce bien. Quant à l'exécution, peu importe. On est dans la bataille. Vous voyez, Machiavel, c'est ça. N'importe quel choix, peu importe, le tout c'est de garder une bonne intention. Donc Machiavel met une séparation au point de vue moral entre l'Imperium et le premier amour. Et des quantités de moralistes font ça aujourd'hui. Alors au niveau de l'Imperium, au niveau du choix du moyen, au niveau de l'intention de vie. Alors c'est ça qu'il faut regarder au point de vue critique, la continuité. Alors comment comprendre cette continuité de l'affectivité à l'Imperium? Il y a une connaissance morale. C'est que l'affectivité portant sur le bien connu comme un absolu est une fin. La fin, je ne peux l'atteindre donc qu'en l'aimant. Je ne peux pas saisir la fin en dehors de l'amour, puisque la fin implique un bien absolu. Et les moyens sont bons dans la mesure où ils sont relatifs à la fin. Si le moyen ne conduit pas à la fin, il n'est pas bon. Donc la bonté du moyen provient de la fin, donc provient du premier amour. Et la bonté de l'Imperium provient de la bonté du moyen. Donc vous voyez la continuité de l'amour à l'égard du bien qui est toujours présent. Mais ce qui est juste, ce qu'il faut saisir, c'est que le bien apparaît immédiat dans le premier amour, dans l'intention de vie. Mais le bien apparaît en second lieu dans l'Imperium. Où c'est la connaissance.